ça fait grand bruit en Israël, au propre et au figuré. La tempête Byron frappe le pays depuis 3 jours maintenant. Un épisode particulièrement violent qui s'accompagne de fortes pluies, d'importantes inondations, bien évidemment. Des phénomènes climatiques qui se multiplient ces dernières années dans le pays où coule le lait et le miel. De quoi s'en inquiéter? Point d'interrogation. C'est l'une des questions que l'on va poser à notre invité. Il s'agit de Jonathan Alon Eichenbaum. Il est directeur adjoint de Life and Environment, la Fédération israélienne de protection de l'environnement. Et il est à votre micro, mon cher Jonathan Serrero.
Jonathan Eichenbaum, bonjour et Boker Tov.
Bonjour, bonjour Jonathan, Boker Tov. Bonjour à tous.
Alors, qu'il pleuve en hiver, ce n'est pas une surprise, mais il faut souligner que cette séquence pluvieuse intervient après plusieurs semaines sans précipitation en Israël. Est-ce que cela explique la violence dépressionnaire observée ces derniers jours sur le pays?
C'est des phénomènes. D'abord, c'est des phénomènes qui se multiplient ces dernières années. On les observe. Les services météorologiques israéliens sont, comme tous les services météorologiques du monde, suivent ces questions et ils les suivent de manière statistique avec des données. Donc on observe très clairement que. De manière générale et également en Israël, donc il y a de plus en plus de périodes extrêmement longues dans lesquelles il ne pleut pas, donc des périodes qui sont finalement des périodes de sécheresse, qui sont des périodes également extrêmement dangereuses et qui créent exactement et qui créent des incendies, et puis des boules de précipitation. Il y a eu un premier épisode, si je ne m'abuse, il y a une semaine ou 10 jours, où dans le sud d'Israël, donc dans le Negev, il est tombé en un jour l'équivalent de ce qui tombe toute l'année. Donc c'est absolument phénoménal et là donc on a juste devant nous ce Byron. C'est aussi une nouveauté. On a commencé à leur donner des noms il y a à peu près un an ou deux parce qu'on a compris qu'on a affaire à des phénomènes qui sont importants et qu'il faut sensibiliser et mobiliser la population à la prudence. Et donc c'est également pour ça qu'on leur a donné des noms. Ça n'existait pas il y a quelques années. Et voilà, on a devant nous des phénomènes climatiques qui sont effectivement très importants.
Alors, on a des phénomènes climatiques violents, mais en même temps, l'hiver 2024 a été particulièrement sec, selon les données des services météo du pays. Doit-on s'en inquiéter?
Oui, alors s'en inquiéter, oui, parce que ce n'est pas du tout une surprise. Je rappelle comme ça très 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 brièvement, mais le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, ça fonctionne de manière relativement simple et qui peut être facilement expliquée. Il y a de la chaleur qui est piégée par les gaz à effet de serre. Cette chaleur est absorbée par les océans et ça crée logiquement plus d'évaporation. Voilà, la règle est simple. À chaque degré d'augmentation de la température, on a plus 7% d'évaporation. Donc là, on est à peu près 1 degré 3, 1 degré 4. On a à peu près 10% d'évaporation en plus. Donc, vous imaginez finalement beaucoup plus de masse humide dans l'air, de manière globale, et ça accélère le cycle de l'eau, et ça fait que les précipitations se concentrent plus, elles sont simplement plus concentrées. C'est ce qu'on va appeler de manière très simple, un peu comme si une moussonisation, ça veut dire on passe à un phénomène de mousson généralisé, dans plein d'endroits du monde, bien sûr, hein, et également en Israël. Donc, c'est très logique, on peut de manière aussi relativement précise, être capable de dire quelles vont être les prévisions pour les années à venir. Enfin, en gros, la tendance est extrêmement claire. Et donc, en fonction de ça, on peut programmer, on peut tout programmer, en fait. On peut programmer la façon dont on doit être préparé pour les infrastructures, pour l'eau, parce que, imaginez, vous avez des quantités d'eau incroyables qui arrivent en très peu de temps. Tout ça, il faut savoir le gérer. Il faut le gérer beaucoup mieux. Et donc Israël est un peu comme beaucoup d'endroits du monde, un apprentissage accéléré par rapport à ça, mais avec des défis qui sont particuliers, puisque nous avons Israël construit énormément, et donc cette vague de construction, il faut savoir bien la gérer, il faut qu'à l'avance, en fait, elle sache prendre en compte ces questions de dérèglement climatique, aussi bien les vagues de chaleur d'un côté que les extrêmes de pluie de l'autre.
Justement, Jonathan, un rapport du contrôleur de l'État publié au mois de mai de cette année, 2025, pointait du doigt le manque de préparation du pays face à ce type de temps. Alors, on a l'impression que les experts des bureaux du contrôleur de l'État copie-collent leur compte-rendu chaque année, mais que rien n'est fait pour améliorer la situation.
Oui, le contrôleur de l'État fait un travail formidable là-dessus. Le président de l'État aussi a un forum qui est aussi très important, qui fait un travail aussi important sur la question. Non, il n'y a absolument rien de sérieux qui est fait, qui est pris en compte. Israël se trouve sous plein de pressions parallèles. Bien sûr, il y a la pression sécuritaire, mais il y a la pression démographique. La pression démographique qui fait qu'on doit construire très vite, beaucoup. Et puis, il y a la pression du dérèglement climatique. Et puis, il y a encore d'autres pressions que je n'ai pas en tête. Et sociales, etc. Enfin, il y a tellement de choses. Et donc, par rapport à ça, la politique israélienne, malheureusement, n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur, parce qu'il faut quelque chose qui soit à la fois visionnaire, qui soit à la fois très rationnel, très rassembleur, qui ait beaucoup de travail. Et ça fait à peu près 12 ans que j'assiste à des réunions interministérielles par le ministère de l'Environnement sur ces questions. Et ça avance très très peu. Mais alors, il y a des mairies qui de leur côté, contournent le gouvernement central. Et elle arrive à avancer et à faire des choses. Mais comme politique nationale, ça avance, c'est absolument déplorable. Et pire que ça, je dirais, c'est que il y a, justement, par rapport à des questions de pression démographique et aussi des intérêts économiques, il y a une pression croissante pour diminuer les pouvoirs du ministère de l'Environnement, comme c'est le cas dans la nouvelle loi qui est proposée avec le budget, la loi sur le programme économique de 2026 d'Israël, qui est un désastre de plein de points de vue dans l'environnement. Donc, malheureusement, les défis sont de plus en plus grands, et la capacité à y faire face, au niveau de l'État au moins, ne s'accroît pas de la même manière.
Jonathan, j'ai une dernière question, une question quelque peu annexe à notre sujet. Mais est-ce que les différentes guerres qui se sont déroulées ces deux dernières années dans le pays ont eu un impact sur notre environnement et sur le climat en Israël ?
Alors, sur l'environnement, certainement, puisque Gaza, il y a des destructions d'ampleur inédite, et que donc vous avez à la fois un énorme problème de déchets. Vous avez aussi des problèmes de pollution de l'eau qui sont liés à ça. Les nappes phréatiques communiquent entre elles. Tout ça communique également par la mer. Donc vous avez des problèmes transfrontaliers de pollution qui sont absolument gigantesques. Par rapport au climat, une guerre est quelque chose qui, du point de vue climatique, est aussi très important. Ça a été pointé dans différentes études. Mais néanmoins, les études ont pu dire ce qu'elles voulaient. Par rapport à ça, on parle de plusieurs millions de plusieurs millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2 de la guerre de Gaza. On parle d'une quantité à peu près 10 ou 30 fois plus, je sais pas exactement, enfin beaucoup plus, de la guerre d'Ukraine. Donc ça a un impact. Mais aucun de ces événements en soi ne peut être isolé, et on ne peut pas dire que ça impacte le climat juste tout seul. C'est pas à prendre isolé. Et il y a des tas de publications qui sont faites et des journaux qui reprennent des titres comme quoi Israël fait un désastre pour le climat et tout. Ça, c'est fait pour nuire à Israël, c'est pas fait pour aider le climat.
Les incendies aussi dans le nord durant la guerre, la dernière guerre contre le Hezbollah qui a fait partir en fumée des milliers d'hectares dans le nord d'Israël.
Ça c'est une question qui est extrêmement importante, qui est la question qui montre comment les questions de sécurité et les questions d'environnement se relient l'une à l'autre. Le dérèglement climatique et l'extrême sécheresse permet à ceux qui veulent envoyer des missiles ou qui veulent de brûler facilement des forêts et donc finalement d'arriver à créer un dommage très important. Un phénomène climatique qui ferait que par exemple des avions de chasse ou l'ensemble de l'aviation serait à terre pose également des défis. Le temps extrême pose des défis énormes au point de vue de sécurité et crée en fait une nouvelle donne qui change aussi profondément la façon dont on doit comprendre les notions de d'intérêt national et de sécurité par rapport à ça.
Merci Jonathan Eichenbaum d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Je vous remercie. Bonne journée.